Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma. La peine de mort contre 7 soldats des FARDC à Sake dans le Nord Kivu. C'est la sentence prononcée hier par le tribunal militaire de garnison de Goma. Ces militaires sont reconnus coupables notamment pour meurtre, fuite devant l'ennemi, coups et blessures volontaires. Province de Maïndombe, perturbation de l'opération d'enrôlement des électeurs au village Ngombe dans le territoire d'Inongo, c'est depuis le début de cette semaine. En effet, après la descente d'un groupe de policiers venus arrêter des jeunes, la population locale a trouvé refuge dans la forêt. Et puis, sensibiliser la population de Bukavu aux problèmes qui touchent le Nord Kivu, c'est le but du collectif Goma actif au festival Amani. Cette structure a traversé le lac Kivu pour faire entendre sa voix à la population de Bukavu. Pour en parler, nous recevons Kabuo Rebecca, bénévole et activiste de Goma actif. Madame, messieurs, bonjour. Nord Kivu, la peine de mort, c'est la sentence prononcée hier samedi par le tribunal militaire de garnison de Goma contre 7 soldats des FARDC à Sake, groupement de Kamuranza, chefferie des Baoundé, dans le territoire de Masisi. C'est environ 27 kilomètres au sud de la ville de Goma. Ces militaires étaient reconnus coupables pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit de meurtre, fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions, coups et blessures volontaires. Le condensé de cette décision du tribunal avec Gabriel Ouaménia.
Parmi les condamnés figurent deux éléments de la garde républicaine basée à Goma et 5 autres soldats de la 21e brigade venus en renfort de Lubumbashi. Il est presque 17h dans la cité de Sake. Le président du tribunal militaire de garnison de Goma, le major magistrat Amsi Lazar, prononce la peine de mort contre les 7 militaires inculpés tous pour des infractions, la fuite devant l'ennemi et la dissipation des munitions de guerre pendant que l'un d'eux, les soldats de première classe de l'unité de réaction rapide, Ndiwa Maoko, était aussi poursuivi pour les infractions de meurtre d'une femme enceinte d'environ 35 ans, coups et blessures volontaires aggravées ayant entraîné la mort. Ces militaires, pris de colère, a tiré à bout portant sur la victime après que celle-ci a refusé de donner la somme exigée de 10 000 francs congolais. Jusqu'à leur condamnation, ces soldats étaient engagés dans les combats contre les rebelles du M23 sur l'axe Sake-Kichanga sur le front du village Kingi. Rappelons que les détonations d'armes que portaient ces militaires pendant leur fuite de King à Sake ont provoqué une vive panique au sein des habitants de Sake et Mubambiro et entraîné un déplacement massif de la population qui ont fui les uns vers Goma alors que d'autres ont pris la direction de Minova au sud Kivu. Goma, Gabriel Ouaméya, Radio Kapi.
Pendant ce temps, une accalmie relative est observée ce dimanche dans les zones des affrontements en territoire de Masisi et Rutshuru. Nous sommes toujours au Nord Kivu. D'après nos sources, dans le Masisi, les FARDC continuent à exercer une pression sur les rebelles du M23 sur l'axe Sake-Kiroli-Rwe. Le porte-parole de l'armée a rassuré la population hier à Sake de la détermination de l'armée à pouvoir déloger l'ennemi dans toutes les localités occupées. Le point avec vous, Pierrot et Lamenji.
Les sources concordantes affirment que l'armée a procédé au bombardement toute la journée du samedi sur les positions ennemies, entre autres dans les localités de Kabati, Karenga et Kiroli-Rwe, dans le groupement Bachali Kaembe, une trentaine de kilomètres de Sake. Dans une interview accordée à la presse locale hier à Sake, le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, a confirmé que des combats se poursuivent dans cette région et l'objectif c'est de déloger les rebelles du M23 et l'armée rwandaise de toutes les zones occupées. Une certaine accalmie a été enregistré également depuis plusieurs jours vers Kichanga, plus au nord de Masisi. Toutefois, des cas de pillage ont été perpétrés par les rebelles du M23 dans cette cité. Le dernier cas en date, selon nos sources, c'est le centre de santé 8e CEPAC Kichanga, dont tous les médicaments ont été pillés vendredi dans la matinée. Par ailleurs, dans le Rutshuru, la situation reste incertaine et la psychose toujours observée dans la région des Bambo, Kibirizi et environ où la menace des affrontements pèse toujours. Rappelons que 5 habitants ont été tués près de Kibirizi vendredi soir par une bombe, ce qui accroît la peur au sein de la population.
Du côté de l'Ituri, le service de protection civile alerte sur la présence d'une bombe découverte depuis une semaine qui constitue un danger permanent pour la population. Selon ce service étatique, cet engin explosif est installé dans un périmètre où s'exécute un projet communautaire de pisciculture. Le responsable provincial du service de protection civile demande au service spécialisé de se déployer d'urgence sur le lieu pour la destruction de cette bombe. De son côté, la coordination déplore l'absence de services anti-mines au sein des FARDC et de la police en Ituri qui recourt à l'expertise de la MONUSCO au Nord Kivu. Explication, Isaac Remoyope.
Cette bombe est placée dans un endroit stratégique en cheval entre des étangs pour un projet communautaire de pisciculture et le bureau du chef de secteur de Walendu Tati au centre commercial de cette entité qui est une zone très fréquentée, affirme l'autorité coutumière locale, ce qui selon elle augmente les risques et des dégâts pour la population locale. Le chef Joël Mandé dit avoir déjà alerté les services de sécurité et la MONUSCO pour la destruction de cette bombe, mais la solution traîne.
C'est situé d'ailleurs non loin de mon bureau, là où il y a la pisciculture que Pena a installée. On a informé les FARDC, on a informé aussi la MONUSCO pour enlever ce danger permanent qui est parmi la population.
Pour la société civile de l'Ituri, il est inacceptable que l'armée et la police congolaise ne disposent pas des services de déminage dans une région des conflits armés. Son coordonnateur demande au gouvernement d'organiser ses services pour la protection de la population au lieu de recourir chaque fois à l'équipe de déminage de la MONUSCO basée à Goma et Beni dans le nord Kivu. Dieudonné Lossa.
Cette bombe se trouve chef lieu du secteur de Walendu Tats, mais il y a pas quelqu'un pour désamorcer. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse faire diligence et d'organiser rapidement cette unité de déminage au sein des FARDC afin de contrôler la situation au quotidien.
Nous n'avons pas encore la réaction du gouvernement provincial. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Maniema, le Forum pour la paix, la cohésion et le développement des fils et filles du Maniema devra se tenir à Kindu du 14 au 15 février en cours. Dans ce cadre, depuis vendredi, plusieurs délégations arrivent sur place à Kindu en provenance de Kinshasa, des autres provinces et de l'extérieur du pays. Cette grande rencontre se tiendra dans l'amphithéâtre Mapan de l'Université de Kindu et aura pour objectif, entre autres, d'échanger sur le développement à tous les niveaux de la province du Maniema. Florence Kiza.
Le samedi, parmi ceux qui sont arrivés à Kindu, nous avons aperçu descendant de l'avion le sénateur Bikenge Musimbi, le député national Amissi Lupia, messieurs Emmanuel Ramazani Shadari, Nafisa Binti Sula, Moni Dela, madame Léonie, mère de l'ex-première dame Olive Lembe, pour ne citer que ceux-là. Tous nous ont affirmé être venus discuter sur la reconstruction de la province du Maniema. Sénateur Bikenge.
À ce stade, on n'est pas là pour lancer des polémiques. Non, on est venu pour réfléchir. On réfléchit sur l'avenir. Alors, le présent, il est ce qu'il est. Nous allons réfléchir ensemble, à haute voix d'ailleurs. Ça va se faire à ciel ouvert, au vu de tout le monde. Et on n'est pas venu discuter pour discuter, non. Nous sommes venus pour construire. Et donc, il n'y a pas d'acharnement. On est venu pour réfléchir.
Pour Emmanuel Ramazani Shadari, ce sont des problèmes de fond qui seront abordés lors de ces assises.
On retient que nous sommes venus ici parce qu'il y a des problèmes. C'est pas seulement à Kindu, mais il y a des problèmes même partout. Et nous savons que les solutions sont structurelles, sont institutionnelles. Et puis, nous nous battons pour l'émancipation des provinces, pour que les provinces soient autonomes, que les provinces jouent le rôle, qu'elles jouent les compétences reconnues par la Constitution. Il faut toucher les problèmes.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction la province de Maïndombe. On signale la perturbation depuis le début de cette semaine de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs au village Ngombe, situé dans le territoire d'Inongo. Ce village est vidé de sa population qui a trouvé refuge dans la forêt après la descente des policiers venus arrêter des jeunes. La société civile locale qui alerte signale aussi le pillage des biens de la population et la panique totale occasionnée par la présence de ces éléments de la police. Irène Boma.
Le président de la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme indique que tout est parti lors de la descente des policiers au village Ngombe pour arrêter des jeunes gens accusés d'avoir agressé un officier de la police judiciaire. Moustin Kanda est le président de cette structure.
Nous dénonçons les dysfonctionnements des opérations de l'identification et d'enrôlement des électeurs au centre d'inscription du village Ngombe dans le groupement du Benga, territoire d'Inongo. Cette paralysie est observé de suite à la descente brutale des éléments de la police venus arrêter deux jeunes garçons. La présence de cette équipe a occasionné des arrestations arbitraires, pillages de bêtes et de biens de valeur. La population a vidé le village pour trouver refuge dans la forêt.
La même source invite les autorités sécuritaires à prendre des dispositions pour le retour de la population et la poursuite de cette opération.
Nous demandons aux autorités politico-administratives et judiciaires de s'impliquer afin que les calmes reviennent dans ces villages.
Pour sa part, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Maïndombe, Faustin Gonkoumou, précise par contre qu'il n'y a pas de centre d'inscription à Ngombe, plutôt au village voisin d'Ibenga. La population d'Ibenga a aussi vidé son village par crainte de la police. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Par ailleurs, sachez que depuis le début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, la province du Kouilou a déjà enregistré au moins 1 683 000 personnes enrôlées, soit 55,95% sur les plus de 2 828 personnes attendues. Chiffre rendu public depuis le 7 février en cours par la CENI. Pour Dieudonné Nzimbu, président de la société civile de Bandundouville, au regard de ces statistiques, l'écart est considérable entre les enrôlés et les attendus, alors qu'il ne reste qu'une semaine pour la fin de l'opération. Il plaide donc pour une nouvelle prolongation de cette opération. Dieudonné Nzimbu, au micro de Irène Boma.
La lecture que nous sommes en train de faire est d'abord inquiétante parce que selon les statistiques présentées par la CENI, il s'avère que le nombre d'électeurs attendus jusqu'à ce jour, le nombre d'électeurs enrôlés, il y a un écart considérable. Jusque-là, à un mois, deux semaines, les centres d'inscription n'ont enrôlé que 55% par rapport aux 100% attendus. L'écart, la différence est de 45%. Maintenant, il ne nous reste que deux semaines. On se pose des questions maintenant. Est-ce que une semaine, les OPES ou la CENI comme telle serait-elle en mesure de couvrir ou d'enrôler les 45% des électeurs qui sont restés? Je pense que c'est non. Au regard de tout ce qui se passe sur le terrain, c'est pratiquement impossible. Donc il est question maintenant à la CENI de revoir comment pour compléter les 45% qui restent. Parce que pour enrôler les 55%, la CENI a pratiquement pris un mois, deux semaines. Et pour le 45% qui reste aussi, il est pratiquement possible qu'elle ajoute 51 mois pour que nous arrivions à atteindre les nombres tels qu'elle-même avait prévu.
1921-2021, cela fait 100 ans depuis que l'église adventiste du 7e jour est installée en RDC. Pour marquer le centenaire de l'évangélisation adventiste au pays, la communauté adventiste a organisé samedi 11 février une grande cérémonie de louanges et de prières en présence du chef de l'État, Paul Maté Ndoumayamba. Reportage.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakiro, ont participé à ce grand culte organisé sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est ce qu'indique une dépêche parvenue à Radio Okapi. Présidée par le numéro 1 mondial de cette confession religieuse, le pasteur américain Ted Wilson, ce culte a regroupé près de 5000 fidèles venus de trois zones religieuses du pays, à savoir Union Est, Union Nord-Est et Union Ouest. Dans sa prédication, le pasteur Ted Wilson est revenu sur les fondamentaux de cette église, à savoir être prêt pour le retour du Christ ainsi que le respect des commandements de Dieu. C'est par la ville de Lubumbashi que l'église adventiste est entrée en République démocratique du Congo en 1921. Au fil des années, elle s'est pendu sur toutes les provinces, comptant aujourd'hui 761 258 fidèles sur l'ensemble du territoire national. Grâce à son évangélisation et à son vaste réseau éducatif, l'église adventiste a un réel impact positif dans la vie sociale des Congolais. Dans ce monde des circonstances, le chef de l'État a loué les sérieux de la communauté adventiste qu'il a qualifié de partenaire dans le secteur éducatif.
Et puis, la participation au Forum d'investissement minier Indaba 2023 est l'un des points évoqués au cours du dernier Conseil des ministres tenu ce week-end à Kinshasa, forum auquel a pris part le président de la République et où il a mis l'accent notamment sur sa volonté à mettre fin à l'agression dans l'est du pays. L'économie du compte rendu de ce Conseil des ministres avec Noëlla Luzitu.
Selon le compte-rendu de ces conseils des ministres, le chef de l'État a fait la restitution de sa participation à Cape Town au Forum d'investissement minier Indaba 2023 à l'invitation de son homologue sud-africain. Le chef de l'État congolais a rappelé que dans son discours à ce forum, il a mis l'accent sur plusieurs points importants, notamment le rappel du potentiel minier de la RDC qui offre d'innombrables opportunités, la position géostratégique de la RDC qui représente une espérance planétaire dans le secteur minier et le secteur de l'environnement comme pays solution face au changement climatique, sans oublier les réformes entreprises pour garantir un bon climat des affaires et une redistribution équitable des revenus. Le chef de l'État a invité les investisseurs afin d'explorer les multiples opportunités d'affaires offertes par la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi rappelé sa détermination à mettre fin à l'agression à l'est du pays et a plaidé pour une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Au cours de la rencontre des membres du gouvernement, vendredi, précise le document, le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie a informé le Conseil de la tenue à Kinshasa le 25 février courant de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il a indiqué qu'au cours de cette session, le président de la République, président en exercice, procédera à la passation du pouvoir à son homologue du Gabon. Cette cérémonie solennelle sera précédée par plusieurs réunions des ministres et des experts.
Actualité internationale. Au Niger, au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes armés dans le sud-ouest du pays. Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne dans le nord du département des Bani Bangou, a indiqué samedi le ministère nigérien de la Défense. Le bilan des séismes ayant dévasté lundi la Turquie et la Syrie dépasse les 28 000 morts et pourrait doubler ou plus, a averti l'ONU. Entre-temps, le chef de la diplomatie grecque est arrivé en Turquie pour marquer le soutien d'Athènes à son voisin, frappé par un violent séisme, ce malgré une longue histoire de rivalité. Cette visite est la première de la part d'un ministre européen en Turquie depuis la catastrophe.
L'invité.
Sensibiliser la population de Bukavu aux problèmes qui touchent le Nord Kivu, c'est le but du collectif Goma Actif au Festival Amani, un collectif composé d'étudiants, des journalistes, des entrepreneurs, des artistes qui se sont donnés comme tâche de venir en aide aux déplacés et ce, depuis l'avènement de Covid-19. Cette structure a traversé le lac Kivu pour venir faire entendre sa voix à la population de Bukavu afin que celle-ci apporte aussi son aide à ceux qui souffrent au Nord Kivu. Kabuo Rebecca, bénévole et activiste de Goma Actif, s'entretient ici avec Rachel Kiesse sur les actions que mène ce collectif et leur présence au festival Amani à Bukavu.
Kabuo Rebecca, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites ici au festival Amani, vous, collectif Goma Actif?
On est au festival Amani aujourd'hui pour sensibiliser la population de Bukavu, mais aussi pour dire à la population de Bukavu que le Nord Kivu est en train de souffrir, que le Nord Kivu est en guerre, que les gens, il y a plusieurs déplacés de guerre au sein de la ville de Goma. Et du coup, on est là pour sensibiliser la population de Bukavu, de donner ce qu'ils peuvent donner aussi, attaquer Congolais et Congolaises.
Alors, c'est quoi le collectif Goma Actif?
Goma Actif, c'est un collectif de jeunes qui a été créé où on s'est mettre ensemble depuis la période de Covid. On a essayé de sensibiliser la population pour le geste barrière. On a essayé aussi d'aider les sinistrés de l'éruption volcanique. Et aujourd'hui, on est en train de venir en aide aux déplacés de guerre qui sont à Kanyaruchinya, dans le Nord Kivu, à quelques kilomètres de la ville de Goma.
Hormis la sensibilisation, quelles sont les autres activités que vous faites, vous, les activistes du collectif Goma Actif?
Nous, en tant qu'activistes et bénévoles de Goma Actif, on prépare la bouillie d'abord pour les déplacés. Pendant la période de Covid, d'abord, à part la sensibilisation, on a fait aussi les masques, les cache-nez, on a distribué à la population, on a acheté des seaux pour mettre dans des coins stratégiques, dans des marchés, au sein des écoles, on a fait ça. Mais aujourd'hui aussi, on prépare la bouillie chaque matin pour les enfants déplacés, mais aussi pour les femmes enceintes, les femmes qui accouchent dans les cas de déplacés. On essaie de donner les habits collectés au sein de la population. Et il y a aussi une équipe médicale qui s'occupe des questions urgentes. Il y a des maladies contagieuses dans les cas de déplacés. On essaie de venir en aide aussi sur ces plans. On a notre pharmacie ambulante et du coup, c'est ce que nous faisons avec Goma Actif. Pratiquement, à part la sensibilisation, c'est préparer la bouillie chaque matin pour les enfants à déplacer.
Mais d'où vous est venue cette idée de créer ce collectif?
C'était l'idée de venir en aide aux gens. C'est depuis Covid, donc 2020, qu'on a commencé le collectif Goma Actif et on a continué à à sensibiliser la population, mais aussi à être pratique sur le terrain. Ça continue, les gens adhèrent, parce qu'il y a tout le monde, il y a plusieurs catégories de personnes, il y a des journalistes, il y a des entrepreneurs, il y a des blogueurs, il y a des slammers, il y a des activistes des mouvements citoyens, il y a tout le monde, presque, les habitants de Goma commencent à s'approprier cette lutte de venir en aide. Si un Congolais est en danger, moi, en tant que Congolaise ou Congolais, où que je sois, je dois me sentir concernée de la situation qui se passe dans mon pays. Donc l'unité du Congo, on est en train de propager cette unité du Congo, attaquer Congo et attaquer nation.
Que représente le festival Amani pour Goma Actif?
Le festival Amani représente un endroit de sensibilisation, un endroit où on fait passer le message de la paix, un endroit où on fait passer le message de l'unité du Congo, un endroit où les Congolais se sentent à l'aise pour chanter pour la paix, danser pour la paix, mais aussi donner le paix que vous pouvez donner pour la paix. Parce que quand tu donnes ce paix-là pour peut-être les enfants déplacés, tu contribues au sourire de cet enfant ou de cette famille qui est en difficulté. Donc pour nous, le festival Amani, c'est un moment pour sensibiliser et pour des questions qui concernent notre pays.
Alors vous pensez que l'idée d'organiser un tel festival a un certain apport au sein de la communauté, des régions, des Grands Lacs ou des communautés qui vivent dans des conflits?
Oui, c'est bien de se retrouver, d'être ensemble. C'est bien de partager ici ces moments de joie parce que ça nous manque aussi. Ça peut aider sur le plan psychologique. Peut-être les gens qui organisent le festival Amani, ils peuvent aller au-delà d'être là pour la danse ou la musique, proposer des pistes de solutions, aller au-delà de ça, de proposer des pistes de solutions qui est la paix. C'est que nous chantons, mais que ça soit le vécu dans la région qui souffre, qui a besoin de la paix.
Kabou Rebecca, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Voilà, notre invité répondait aux questions de Rachel Kiesse. Depuis Bukavu, c'est la fin de ce journal, coordonné par Piero Elamenji et Noéla Luzitu, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.